Bienvenue à ce service qui est probablement le plus stimulant. Tout le festin, et non des moindres, parce que c'est le dernier message du dernier grand jour, après des jours et des jours de nourriture spirituelle. Comment étiez-vous? À quoi ressemblait chacun d'entre vous avant de recevoir le Saint-Esprit? Quel genre de personne étiez-vous avant que Dieu ne vous donne son esprit? Étiez-vous aussi gentil que vous l'êtes aujourd'hui? Étiez-vous aussi patient dans les situations difficiles, peut-être comme vous l'êtes maintenant? Étiez-vous aussi humble lorsque quelqu'un vous faisait du tort? Étiez-vous aussi satisfait de votre vie avant que Dieu ne vous donne son esprit? Connaissiez-vous aussi bien la Bible? J'ai parlé à certains d'entre eux pendant la fête et ils ont choisi d'acquérir la connaissance de Dieu, une connaissance supplémentaire de Dieu. Mais avant d'avoir l'Esprit de Dieu, aviez-vous la même connaissance de la Bible? Étiez-vous aussi fidèle? Étiez-vous aussi aimant? Plutôt que d'avoir le Saint-Esprit, recevoir l'Esprit de Dieu vous change complètement. Il nous change tous complètement. Que l'Esprit de Dieu soit en vous ou qu'il travaille avec vous, il vous change complètement. Regardez Pierre, l'apôtre Pierre. Il était paralysé par la peur lorsque Christ était en procès. Vous vous souvenez qu'il avait dit qu'il ne renierait jamais Christ. Il a fini par le rejeter 3 fois et a maudit tout au long du chemin. Plus tard, ce même homme s'est mis à prêcher Christ et, sur la place publique, le jour de la Pentecôte, lui et les autres qui étaient avec lui ont été battus, emprisonnés, et il a continué à prêcher Christ. Le Saint-Esprit l'a changé. Qu'en est-il de Paul? Il est passé du statut de tueur de chrétiens, arrachant des hommes, des femmes et des enfants à leur maison pour les faire exécuter. Le même homme est passé de ce statut de monstre à celui d'infirmier avec des enfants. Je crois que c'est dans les premiers Thessaloniciens. Ainsi, d'un monstre qui tuait des chrétiens, il est devenu une infirmière qui soignait et chérissait les chrétiens comme des enfants, tout en étant un enseignant prolifique, l'un des enseignants des Écritures les plus prolifiques qui ait jamais existé. Le Saint-Esprit l'a changé. Le Saint-Esprit, mes frères, change complètement notre comportement, notre caractère, notre personnalité, notre état émotionnel, notre niveau de sagesse, de connaissance et de compréhension. Toutes ces choses changent parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Les changements commencent généralement par de petites choses, des changements progressifs, les choses ne se produisent pas du jour au lendemain, mais avec le temps, les changements augmentent et nous devenons ce que 2 Corinthiens 5, 10-7 appelle une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Encore une fois, tout cela parce que le Saint-Esprit nous change. Les choses que je viens de décrire ne sont qu'un résumé de toutes les façons dont le Saint-Esprit nous a tous changés. Maintenant, imaginez le monde entier avec le Saint-Esprit. Imaginez que tous les habitants de la planète, tous les vivants, tous les gens aient l'Esprit de Dieu. C'est l'un des nombreux miracles que représente le dernier grand jour. Dieu répandra son Esprit sur le monde entier. Il fera l'expérience de ce que beaucoup d'entre nous ont vécu au cours des 6 derniers mois, de l'année écoulée, des 2 dernières années, des 5 dernières années, des 10 dernières années et peut-être, dans certains cas, des 50 dernières années, en fonction de la durée pendant laquelle vous avez suivi le chemin de Dieu. Le monde entier fera l'expérience de ce que nous avons vécu au cours de la dernière période qui s'applique à vous. Frères et sœurs, en ce dernier grand jour de la fête, prenons le temps de mieux comprendre l'événement monumental qu'est le déversement de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est tellement amusant de penser au monde entier avec le Saint-Esprit. Pensez à votre patron avec le Saint-Esprit. Mon patron a le Saint-Esprit, rire, mais tout le monde n'a pas, Ils ne peuvent pas dire cela. Imaginez vos collègues de travail avec l'Esprit de Dieu, combien il serait plus facile d'aller au travail tous les jours. Imaginez votre belle famille avec l'Esprit Saint, selon votre relation avec votre belle famille, Dieu vous souhaite bonne chance pour la journée. Imaginez votre conjoint avec le Saint-Esprit. Peut-être que votre conjoint n'est pas dans l'Église, mais imaginez qu'il soit habité par le Saint-Esprit et que vous puissiez être plus proches les uns des autres. Imaginez des enfants adultes avec le Saint-Esprit, à quoi cela ressemblera-t-il? Vos voisins ont tous l'Esprit de Dieu, qui les dirige, les guide. Ce serait une expérience complètement différente. J'ajouterai une dernière chose. Pensez à tous les participants à cette fête, à tous les habitants de cette belle ville, qui ont tous l'Esprit de Dieu. À quoi cela ressemblera-t-il? Eh bien, nous aurions besoin d'une salle plus grande. Il faudrait abattre quelques-uns de ces murs. Il faudra peut-être même organiser plusieurs services, parce qu'il y aura tellement de monde. Le monde entier aura accès à la pensée de Dieu, tout comme nous. Reportez-vous au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Où Dieu parle-t-il de répandre son esprit sur toute chair? Actes, chapitre 2. Nous reprendrons au verset 17. Actes chapitre 2, verset 17, il arrivera, dans les derniers jours, frères, nous sommes certainement dans les derniers jours du plan de Dieu. Dit Dieu, c'est donc Dieu qui parle. Moi, Dieu parle. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, frères, c'est quelque chose que Dieu a dit que nous ferions et c'est quelque chose qu'il a dit qu'il ferait dans les derniers jours. C'est donc quelque chose qui n'est pas très loin dans le futur. Le mot « verser » signifie « déverser » ou « jaillir ». Je pense donc à cette image, à ce mot qui signifie « jaillir » ou « se déverser ». Dieu prévoit de déverser son esprit, qui jaillira et couvrira toute la chair. C'est un peu comme si l'Esprit de Dieu avait été répandu sur toute la chair. Oh là là! Maintenant, avant les derniers jours, Dieu donne son esprit différemment. Il est plus sélectif. Dieu choisit à qui il va donner son esprit de manière sélective, c'est donc un processus de sélection. Il a choisi les prédicateurs de la justice. Nous pouvons donc regarder en arrière, les hommes qui, dans l'Ancien Testament, ont manifesté les fruits de l'Esprit, qui ont enseigné la voie de Dieu. C'était le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu avec eux et en eux. Dieu a choisi les patriarches, dans l'Ancien Testament, David avait l'Esprit de Dieu. Dieu a été très sélectif. Il a choisi les 120 personnes le jour de la Pentecôte et les milliers de personnes qui ont été baptisées par la suite. Il nous a tous choisis, de manière très sélective. Et Dieu nous a fait passer par un processus d'appel. Il l'a désigné. Il nous a désignés, nous a sélectionnés, sans aucun doute, a eu une conversation avec les anciens, avec Christ, et a sélectionné chacun d'entre nous et a choisi de nous donner et de nous offrir son Saint-Esprit. Maintenant, mes frères, sans vouloir vous dévaloriser ou me dévaloriser moi-même, nous ne sommes pas spéciaux en soi. Nous ne sommes pas spéciaux simplement à cause de ce que nous sommes. Nous nous tournons vers le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième chapitre des Corinthiens. Ce qui nous rend spéciaux, ce qui nous distingue, ce qui nous rend différents, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Deuxième Corinthiens, chapitre 4. Nous reprenons au verset 4. Deuxième Corinthiens, 4, 4. En se concentrant sur la pensée ici, en qui le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, pourquoi? Afin que la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas pour eux. Frères et sœurs, Le monde est bloqué. Le monde est aveuglé. Le monde est spécifiquement tenu à l'écart de connaissances très importantes. C'est un processus actif qu'un être très puissant appelé ici, le Dieu de ce monde, est autorisé à faire. Satan est actif, il n'est pas passif. Il bloque activement, de manière proactive, l'esprit de ceux qui vivent dans le monde. Les membres de notre famille, nos collègues de travail, dont nous parlions tout à l'heure, notre patron, nos beaux-parents. Ils sont spécifiquement bloqués et tenus à l'écart des informations que nous avons tous été autorisés à voir. Le monde est aveuglé. Un voile couvre leurs yeux. Nous reparlerons du voile dans un instant. Mais si vous savez ce qu'est un voile, c'est quelque chose qui couvre votre visage et vous empêche de voir. Le monde entier a donc un voile sur les yeux. Et ce que je trouve fascinant dans ce verset, c'est qu'autrement, il le verrait. Si le monde n'était pas activement bloqué, activement aveuglé, il le verrait. Il verrait les choses que nous voyons. Il comprendrait pourquoi nous observons le sabbat. Il comprendrait pourquoi nous nous habillons. Il comprendrait la façon dont nous parlons et les choses que nous faisons. Tout serait clair pour eux. Ils le verraient. Mais ils en sont activement empêchés. Tournez à. Nous restons ici dans la deuxième partie de l'Épître aux Corinthiens. Passons au chapitre 3. Deuxième Corinthiens, chapitre 3. Et ceci, mes frères, ce que nous allons lire ensuite devrait nous inspirer. Il devrait nous enthousiasmer. C'est le dernier grand jour, comme je l'ai dit, nous avons appris tant de choses pour lesquelles nous pouvons nous réjouir. Voici quelque chose d'autre qui devrait nous enthousiasmer. Deuxième Corinthiens, chapitre 3. Nous reprenons au verset 13. Ce n'est pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Si vous connaissez l'histoire de Moïse qui se couvrait le visage, il avait un voile. Afin que les enfants d'Israël ne puissent pas regarder fermement vers la fin de ce qui est aboli. Les enfants d'Israël étaient donc empêchés de voir quelque chose. Ce n'est pas tant que le voile bloquait la vue de Moïse, mais plutôt qu'il les empêchait de voir ce qui était aboli. Il les empêchait de voir ce qui allait arriver. Nous continuons à lire, mais leur esprit était aveuglé, car jusqu'à ce jour, le même voile n'a pas été ôté lors de la lecture de l'Ancien Testament, alors qu'il a été ôté en Christ. Frères et sœurs, nos yeux étaient couverts. Ils étaient bloqués. Nous ne pouvions pas voir. Aujourd'hui, nous pouvons voir, mais le monde est dans le même état. À bien des égards, ce n'est pas leur faute. Aussi hostiles que les gens puissent être, aussi durs qu'ils puissent être avec nous, aussi difficiles qu'ils puissent nous rendre la vie, aussi éprouvantes qu'elles puissent être, ce n'est pas leur faute. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas le voir. Un voile couvre leurs yeux. Ésaïe 25. Ésaïe 25. Tout comme Israël ne pouvait pas voir le visage de Moïse, les gens aujourd'hui ne peuvent pas voir le plan de Dieu. Leurs yeux sont couverts. Nous avons beau essayer de leur expliquer, rien ne vaut le fait de le voir de ses propres yeux. Ésaïe 25. Mais j'ai dit qu'il y avait de l'espoir. Ésaïe 25, verset 7. C'est une image de notre avenir, une image du royaume. Ésaïe 25, verset 7. Il détruira sur cette montagne la face de la couverture jetée sur tous les peuples. Il y a donc quelque chose qui est jeté sur tout le peuple, quelque chose qui couvre tout le peuple. Et le voile qui s'étend sur toutes les nations. Frères et sœurs, finalement, le voile sera levé sur le monde entier. C'est ce qu'on appelle aussi l'effusion de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Le monde entier, les jeunes, Les professeurs que vous avez et qui ne comprennent pas vraiment ces jours saints que vous célébrez et pourquoi vous partez une semaine alors que l'année scolaire vient de commencer. Les patrons des collègues de travail qui ne comprennent pas, bon, c'est quoi cette fête à laquelle vous participez? Vous mangez beaucoup de choses quand vous êtes là-bas? Oui, nous le faisons. Oui. Vous allez à l'église tous les jours ou vous allez juste en Floride? D'accord, vous êtes sur la plage. Eh bien, nous allons au culte le matin et l'après-midi, nous avons du temps libre. Oh là là, c'est des vacances bizarres. Mais cela ne sera pas si étranger au monde une fois que le voile sera levé, une fois que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Allons au chapitre 7 de Jean. Un verset très familier. Nous l'avons entendu l'autre jour de la bouche de notre pasteur général, mais il commence à décrire vraiment et continue à décrire vraiment ce qui va se passer. Jean, chapitre 7. Les paroles du Christ lorsqu'il marchait sur la terre, ou en quelque sorte condensées et comprimées dans ces quatre évangiles. Je suis sûr qu'il y a eu tant de choses qui n'ont jamais été enregistrées. Je crois que les Écritures disent que si les livres, si tout ce que Christ a fait, y compris les choses qu'il a dites, étaient écrits, il n'y aurait pas assez de livres pour tout contenir. Ce qui est fascinant, c'est que cela rend d'autant plus importantes les choses qu'il a dites, les choses qu'il a consignées, et nous voulons être sûrs de ne pas les manquer. Jean chapitre 7, reprenez au verset 39. Jean chapitre 7, verset 39. En fait, c'est 37. Jean chapitre 7, verset 37. Au dernier jour, ce grand jour de la fête, nous comprenons que la fête est une fête de 8 jours. C'est le 8e jour. 7 jours l'ont précédé. Il s'agit d'une seule fête. C'est une compréhension étonnante. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, comme le dit l'Écriture. » C'est une description extraordinaire, de votre ventre, de vos entrailles, de votre torse, coulent des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas comme un pistolet à eau, pour être facétieux. Ce n'est pas un goutte à goutte. Ce sont des rivières d'eau vive. Les gens ne pouvaient qu'être étonnés. De quoi parle cet homme? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi parle-t-il? La parenthèse ici au verset 39, il parla de l'Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Christ expose le plan. Croyez en moi, dit l'Écriture, de votre ventre, de votre personne, couleront des fleuves d'eau vive. Le dernier grand jour, dont parle Christ, est manifestement une référence. Le dernier grand jour de la fête, plutôt, est manifestement une référence au dernier grand jour. Et le dernier grand jour, mes frères, représente un moment où n'importe qui, nos familles, nos amis, peuvent tous venir et boire de l'eau de l'Esprit. Fini les fausses religions, fini les fausses fêtes. Tout le monde comprend les Écritures ou apprend en cours de route, comme nous tous. Mais ce n'est pas seulement isolé à ce petit groupe, cette petite église, qui s'accroche, qui est fidèle, qui est le groupe dont Christ a dit, « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre ?» Il ne s'agit plus seulement de ce petit groupe au milieu du chaos. Non, tout le monde sera comme nous. Apocalypse, chapitre 22. Chapitre 22 de l'Apocalypse. La toute fin des Écritures, la toute fin de la Bible. Je veux dire, quelle façon de terminer les Écritures? Si nous lisons ici, quelle façon de terminer la Bible? Apocalypse 22, 17. Il s'agit simplement d'une réitération de ce que nous venons de lire dans Jean 7. Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. C'est exactement la même référence, une référence au Saint-Esprit. Une référence à la capacité et à l'opportunité de boire de l'eau de vie. Repensez à l'arbre de vie. Si Adam et Ève avaient mangé du bon arbre, je ne serais probablement pas ici. L'histoire serait tout à fait différente. Qui sait à quoi ressemblerait le monde, mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Ici, il est question de l'esprit et de l'épouse. Frères et sœurs, c'est nous sommes l'épouse du Christ. Maintenant, nous aurons l'occasion, qu'en ce temps dont il est question, nous aurons l'occasion de fournir les eaux de la vie à tout le monde. D'accord, c'est une chose de donner un verre d'eau à quelqu'un qui a physiquement soif, surtout si vous avez juste soif, et la satisfaction que vous obtenez en leur donnant un verre d'eau. Imaginez maintenant la satisfaction de donner à boire à quelqu'un de l'eau de la vie, ou maintenant, les choses qui étaient confuses auparavant en maintenant un sens. Les Écritures s'alignent maintenant. Vous n'avez pas à prendre la même chose qu'à Thomas Jefferson. Il n'est pas nécessaire de prendre des ciseaux et de couper certaines Écritures. Elles ont tout un sens maintenant. Et c'est ce que nous pouvons offrir. Nous pouvons offrir cette boisson, ces eaux de vie, nous pouvons les offrir gratuitement. Nous pouvons en faire partie. C'est ce que nous pouvons faire. C'est très excitant. Nous continuons à voir, frères, cette référence à l'eau, et le Saint-Esprit est lié à l'eau. Nous l'avons entendu. C'est une excellente analogie. Tout d'abord, l'eau est nécessaire à la vie. Un être humain peut rester des semaines, voire des mois, sans eau, pardon, sans nourriture. Selon les réserves dont il dispose, il peut tenir un certain temps, mais on a calculé qu'une personne ne peut rester que 3 jours environ sans eau. On parle donc de semaines, voire de mois sans nourriture, mais seulement de 3 jours sans eau. Pour une raison quelconque, un chameau me vient à l'esprit. 7 mois, je crois. C'est incroyable. C'est le temps incroyable que nous avons entendu plus tôt dans le festin. Mais un être humain ne peut rester que 3 jours sans eau. C'est une analogie importante. Dieu compare son Saint-Esprit à de l'eau, quelque chose dont nous avons tous besoin pour vivre et que nous ne pouvons pas vivre longtemps si nous ne l'avons pas. L'eau est également versée. Vous pensez à quelque chose qui est versé, l'eau est versée. Elle est très fluide et remplit un récipient. Vous versez quelque chose ou vous laissez l'eau d'un robinet, par exemple, pénétrer dans un récipient. Dans ce cas, nous sommes le récipient. Allez au premier chapitre des Corinthiens. Premier chapitre des Corinthiens. Nous sommes le récipient. Premier Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Premier Corinthiens, 3, 16. Ne savez-vous pas que vous, il y a un pluriel qui signifie tous, vous savez, collectivement, que vous, nous tous, êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ainsi, mes frères, nous sommes le contenant. Nous contenons nos corps, nous contenons l'Esprit de Dieu. Quelle est l'importance pour nous de prendre soin de notre corps? Continuons à lire ici. Si quelqu'un souille le temple de Dieu, si quelqu'un souille ce temple qui contient l'Esprit de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce temple que vous êtes. Frères et sœurs, Quelle est l'importance pour nous de prendre soin de notre corps, de le traiter comme le temple qu'il est, de faire les bons choix en matière de santé, dans la mesure de nos possibilités? Nous avons tous des moyens différents, des niveaux de ressources différents, mais Dieu se soucie de la façon dont nous prenons soin de notre corps. C'est important. Dieu n'est pas silencieux à cet égard. Mais l'essentiel est de comprendre que nous sommes les réceptacles de l'Esprit de Dieu. À des degrés divers, nous avons l'Esprit de Dieu sous forme d'eau à l'intérieur de nous. L'eau est également une source abondante. Il y en a beaucoup. Il y a quelques jours, j'étais dans l'océan, la terre a beaucoup d'eau. J'ai regardé dehors, et je suis déjà allé à la plage, et je suis toujours surpris par la quantité d'eau qu'il y a sur cette planète. Je crois qu'il y a 75% d'eau. Ce n'est pas une coïncidence, mes frères, que Dieu ait choisi cette comparaison. Rappelez-vous, des fleuves d'eau vive. Un Saint-Esprit, c'est une abondance. Ce n'est pas sec, ce n'est pas desséché, ce n'est pas un désert. Non, il y a de l'eau en abondance sur toute la planète, à la disposition des gens pour qu'ils s'en abreuvent. L'Esprit de Dieu est une ressource abondante. Il y en a beaucoup, beaucoup pour tout le monde. Les êtres humains ont tous besoin d'une source d'eau. Nous en avons parlé, vous ne pouvez pas vivre sans elle. Où sont construits la plupart des villes et des villages? Près de l'eau, parce que l'eau est ce qui nous permet de vivre. Elle nous aide à voyager, à nous déplacer, à cuisiner, à boire, à nous laver. Je n'ai pas à vous convaincre, mes frères, de l'importance de l'eau, mais mon but est de vous aider à faire le lien et à voir la signification de l'Esprit de Dieu, qui sera répandu sur toute chair, pour nous aider à voir la signification de la raison pour laquelle Dieu a choisi de comparer son esprit à de l'eau, et de ne pas laisser cela nous échapper. Tout comme les villages et les villes sont proches de l'eau, frères, si nous voulons rester proches de l'eau, nous devons rester proches de Dieu. Nous devons rester près de la source d'eau. Il y a des villageois qui parcourent des kilomètres avec ses paniers sur la tête. Vous avez vu cela à la télévision. Certains d'entre vous en ont peut-être même fait l'expérience, selon l'âge qu'ils ont atteint dans leur passé. Mais faire des allers-retours pour aller chercher de l'eau, c'est beaucoup plus facile quand on vit près de l'eau. Ainsi, rester près de Dieu nous donne la possibilité d'avoir accès à l'eau dont nous avons besoin pour vivre. Que se passera-t-il lorsque le monde entier aura accès à cette eau? Tout le monde aura exactement le même accès que nous. Le monde entier et tous ceux qui y vivent. Lorsque nous repensons, frères, à la manière dont le Saint-Esprit est venu à nous, cela nous donne une chose fascinante à considérer et à penser. À quoi cela ressemblera-t-il? À quoi cela ressemblera-t-il lorsque Dieu répandra son esprit sur toute chair? À quoi cela ressemblera-t-il? Cela ressemblera-t-il à la façon dont nous recevons l'Esprit de Dieu? Pensez à ce qui s'est passé lorsque vous avez reçu l'Esprit de Dieu, à quoi cela ressemblait-il? Y avait-il un vent puissant et impétueux? La pièce a-t-elle tremblé? Avions-nous des petites flammes au-dessus de nos têtes? Est-ce ainsi que l'Esprit de Dieu est venu? Peut-être que les nuages se sont écartés et que des rayons de soleil nous ont éclairés et que nous avons été inondés par les rayons de Dieu. C'est probablement ce que nous avons ressenti, mais est-ce que cela s'est réellement produit? Non, non, c'était paisible. C'était une expérience tranquille, une expérience paisible. Nous avons été baptisés, le pasteur nous a imposé les mains, à prier et à demander à Dieu de nous donner son esprit. Et puis c'était fini. On sortait de la baignoire, on se séchait, on s'habillait et on profitait du repas si c'était un jour de sabbat. Mais c'était un peu comme si on se disait, « Oh, d'accord, c'était décevant. Beaucoup de gens comme moi, à un moment donné, n'ont pas compris ce que c'est que de recevoir l'Esprit de Dieu. Passons au chapitre 19 du livre des Premiers Rois. Premiers Rois, chapitre 19. Nous avons tous entendu l'expression « une petite voix tranquille », mais examinons le contexte dans lequel elle a été prononcée. Premiers Rois, chapitre 19. Nous reprenons au verset 9. Premiers Rois, chapitre 19, verset 9, il vint dans une caverne, et il y demeura, c'est-à-dire Élie. Elle répondit, « J'ai été très jaloux de l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Il ne reste plus que moi, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Frères et sœurs, nous avons parfois l'impression d'être les seuls dans notre entourage, dans notre groupe immédiat à servir Dieu. Cela peut être une expérience très, très, très solitaire. Lorsque vous avez l'impression d'être seul, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'il y a des frères qui prient pour vous, vous savez qu'il y a une église dont vous faites partie, des gens qui vous soutiennent, qui prient pour vous. Mais parfois, à ce moment-là, on peut avoir l'impression d'être tout seul. Il n'y a que moi. Où sont les autres? Ceux qui retournent dans le monde entier, où sont-ils? Où sont-ils? Je fais simplement ce que j'ai dit que je ferais quand je me suis engagé et que je me suis fait baptiser. Ici, nous voyons Élie dire, je suis tout seul. Et pire encore, ils essaient de me tuer. Dieu dit, sortez et tenez-vous sur la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa par un grand vent violent qui déchira les montagnes. Il y a donc un tremblement de terre. Ces montagnes sont déchirées et brisées en morceaux. Les rochers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Ouah! Il se passe beaucoup de choses. Et après le feu, une petite voix tranquille. Notez le contraste. Vous avez ce tremblement de terre, boum! Des pierres tombent. Des incendies de partout. On aurait dit un volcan. D'un côté, vous avez cette force énorme. Quelque chose qui pourrait susciter la peur, ce niveau énorme de puissance, mais ce même être qui a causé cela, est capable de parler d'une petite voix tranquille. Dieu est capable d'une grande puissance. Sa voix peut être très forte. Allons au chapitre 19 de l'Exode. Exode, chapitre 19. Dieu est capable d'être très fort, y compris sa voix. Exode, chapitre 19, verset 17. Exode 19, verset 17, Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent à l'extrémité de la montagne, c'est-à-dire qu'ils ne se tinrent pas à l'écart de la montagne. Et la montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel était descendu sur elle dans le feu, et que sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et que toute la montagne tremblait fortement. C'est un volcan qui est décrit. C'est la seule chose à laquelle je puisse faire le lien. Ils se tiennent donc près d'une montagne en éruption. Une éruption volcanique. Moïse parla, et Dieu lui répondit paragraphe une voix. Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Les enfants d'Israël sont présentés à Dieu. Et quelle introduction! Boum, lave, tremblement, secousse. Chapitre 1, verset 18. Chapitre 20 de l'Exode, verset 18. Le peuple vit les tonnerres et les éclairs. Il y a un volcan avec des tonnerres et des éclairs. Le bruit de la trompette et la montagne qui fumait, et quand le peuple vit cela, il s'éloigna et se tint à distance. Ils sont comme, waouh, waouh, waouh. Ils mettent de la distance entre eux et la montagne. Ils dirent à Moïse, parle-nous, et nous entendrons. Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Frères et sœurs, Dieu peut apporter une grande puissance, une grande autorité et du bruit par son esprit. Il en est capable. Lorsqu'il s'est présenté à Israël pour ses raisons et des raisons qui ont un sens, il voulait qu'ils comprennent qui il était, à quel point il était puissant, ce dont il était capable et ce dont il est capable. Ce même Dieu est capable de faire tout ce bruit, d'apporter toute cette puissance évidente par son esprit. Mais au lieu de cela, il choisit de nous parler d'une petite voix tranquille. Cette voix, vous êtes sur le point de prendre une décision et peut-être de faire quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt. Cette voix qui dit, « Et moi, je ne ferai pas cela. » Ne le faites pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez fait cela, comment cela s'est passé. Cela ne s'est pas très bien passé. Pourquoi ne pas essayer ceci à la place? Vous êtes coincé au milieu d'une épreuve, d'une situation. Vous ne savez pas quoi faire. Les gens s'acharnent sur vous. Ils vous demandent des réponses. Ils veulent que vous preniez une décision qui va à l'encontre du mode de vie de Dieu. Et cette petite voix tranquille vous dira, vous savez quoi? Pourquoi ne pas essayer ceci? Pourquoi ne pas dire ceci? Pourquoi ne pas dire cela? Mais, mes frères, dans cette situation, c'est le même niveau de puissance que Dieu déploie. Ce n'est pas de la lave et des tremblements de terre, des rochers qui partent dans tous les sens, des tonnerres et des éclairs. L'Esprit de Dieu est doux. Il est calme, il est contrôlé. Il n'est pas autoritaire et bruyant. J'aurais aimé le savoir avant d'entrer dans l'Église de Dieu. J'aurais aimé le savoir. Je ne le savais pas. Je pensais que recevoir l'Esprit de Dieu avant d'être mieux enseigné, je pensais qu'il fallait un signe extérieur. Il doit y avoir un signe qui prouve que l'on reçoit l'Esprit de Dieu. Pour nous, dans l'Église pentecôtiste, crier, hurler, courir partout, se rouler par terre, vous ne pouvez pas m'imaginer en train de faire cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour me dédouaner. Je ne me suis jamais senti à l'aise pour faire cela. Je me suis contenté de faire comme si de rien n'était. Mais nous avons pensé que c'était ce qu'il fallait pour montrer que l'on avait reçu l'Esprit de Dieu, que l'on recevait la puissance. Vous allez vous rouler par terre, vous allez crier, vous allez hurler et vous allez brailler à ce sujet. C'est du pouvoir, n'est-ce pas? Non, c'est de l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais c'est le voile, mes frères. C'est le voile. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Leurs yeux étaient couverts. Ils sont sincères. Ils regardent. Beaucoup d'entre eux sont sincères. Cela dit le pouvoir. Alors je vais courir partout. Je vais agir comme si j'avais perdu la tête. Mais les signes extérieurs, frères, certains regarderont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et ils verront que l'Église était en train de naître. Il y a eu des signes extérieurs qui se sont produits à l'époque, et pour de nombreuses raisons, c'est un message à part entière, mais c'était en grande partie pour montrer dans ce cas que l'Esprit de Dieu était donné pour prouver ce qui était en train de se passer. Il fallait que cela se produise et que cela soit montré immédiatement. Cette puissance devait être démontrée immédiatement, et l'Esprit de Dieu, dans la bonne quantité et dans une certaine quantité, montrera des signes extérieurs et une puissance extérieure. C'est ainsi que cela s'est passé, Et comme l'Église se formait pour cette raison, il n'y avait pas le temps d'attendre de nombreuses années pour pouvoir montrer que l'Esprit de Dieu était déversé comme cela avait été prophétisé. Il fallait donc que cela se produise plus immédiatement. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu manifeste et répand son Esprit aujourd'hui. Alors, comment savoir? Comment pouvons-nous vraiment savoir? Je suis toujours en train de penser à ce qui se passera lorsque Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et la meilleure façon pour moi de penser à cela, c'est de penser à ce que c'était quand Dieu a répandu son esprit sur notre chair. Comment savons-nous que nous avons reçu l'esprit de Dieu? Le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Si ce n'est pas, certainement, courir partout, crier et hurler, mais comment savons-nous que nous savons que nous savons que nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Actes, chapitre 2. La réponse peut vous surprendre par sa simplicité. Actes chapitre 2, comment savons-nous que nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Actes chapitre 2, nous reprendrons au verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, c'est lui qui prêche. Rappelez-vous, c'est un Pierre différent maintenant. Il n'a pas peur d'admettre qu'il est avec Christ. Dans ce cas, il prêche Christ en public. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comment savoir si nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Repentez-vous et soyez baptisés, et vous le recevrez. C'est une promesse, mes frères. C'est une promesse. Recevoir l'Esprit de Dieu de bien des manières est un acte de foi. C'est un acte de foi. Je pense en fait que c'est un peu plus difficile que de voir les rochers trembler et la lave cracher, ou les rayons descendre sur vous, d'avoir une sorte de confirmation de cette manière. Non, c'est un acte de foi. D'accord. Maître, suis-je sincèrement repenti? Ai-je été baptisé? Suis-je dans l'Église de Dieu où un ministre est autorisé à m'imposer les mains et à recevoir l'Esprit de Dieu? Eh bien, mes frères, c'est une promesse. Dieu ne peut pas mentir. Si nous avons fait ces choses, nous devons croire que nous avons reçu l'Esprit de Dieu immédiatement. Nous devons le croire. C'est un acte de foi. Et si nous croyons cela, nous commençons à voir comment l'Esprit de Dieu nous change au fil du temps. Nous commençons à voir les changements qui se produisent avec le temps. Deuxième chapitre des Corinthiens. Deuxième chapitre des Corinthiens. Ce n'est pas pour rien que cela prend du temps. Nous devons être patients. Nous devons suivre le processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour devenir un être divin. Cela ne se passe pas comme cela. Dieu fait les choses d'une certaine manière, et il le fait à dessein. Deuxième Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Deuxième Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Et nous commençons le 21e, Or, celui qui nous a établis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu qui nous a aussi marqués d'un sceau et qui nous a donné les arrhes de l'Esprit dans nos cœurs. Les arrhes sont une garantie ou un dépôt. Pensez à un dépôt de garantie. Vous faites un dépôt de garantie pour une maison, ou pour une voiture, ou pour quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Vous versez une petite somme d'argent en prévision d'un paiement important. Dieu nous donne un dépôt, une petite quantité de son esprit pour commencer, et ensuite il commence à travailler avec nous à travers cette petite quantité de son esprit. Et en travaillant avec nous, il le fait grandir, et ce dépôt devient de plus en plus grand. Si nous le permettons, si nous restons proches de la source, il devient de plus en plus grand et se développe. Mais Dieu commence par un simple dépôt de l'esprit. C'est en grande partie pour cela que les montagnes et tout le reste ne tremblent pas, parce qu'il n'y a qu'une toute petite quantité de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quelque chose avec lequel nous pouvons commencer à travailler. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Cet esprit que Dieu nous donne, cette petite quantité, ce Saint-Esprit n'est pas un troisième membre de la Trinité. Ce n'est pas une sorte de troisième roue qui traîne ici, alors que le Père et Christ sont ici. Le Saint-Esprit n'est pas le troisième membre de la Trinité. C'est une grave insulte à Dieu que de croire cela. C'est la faute du voile. Les gens ne savent pas mieux. Des millions, voire des milliards de personnes croient que le Saint-Esprit est simplement le troisième membre de cette Trinité, la Sainte Trinité. La Bible ne dit rien de tel. Consultez le chapitre 5 du 1er Jean. Je me suis esclaffé parce qu'en fait, la Bible dit une telle chose. Vous comprendrez ce que je veux dire dans un instant. Ne coupez pas le micro. La Bible parle bien d'une Trinité. 1er Jean, chapitre 5. Malheureusement, c'est le cas. 1er Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a trois qui portent témoignage dans les cieux, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Ces trois-là ne font qu'un, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là ne font qu'un. J'ai eu du mal à lire la plus grande partie de ce texte parce qu'il est barré dans ma Bible. J'en parle ici parce que certains, surtout s'ils sont nouveaux dans l'Église, ne savent peut-être pas qu'une partie de ce verset tout l'est. Si vous regardez au verset 7, vous savez, il est dit car il y en a trois qui portent un témoignage, c'est très bien, mais à partir du verset 8 jusqu'à la terre, tout cela a été ajouté, et n'a jamais été dans le manuscrit original. Vous l'avez étudié, moi aussi, et tout cela a été ajouté plus tard. Le verset devrait se lire comme suit, car il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois témoins s'accordent en un seul. Techniquement, la Bible parle donc bien d'une Trinité, mais c'est faux. Aussi merveilleuse que soit la version King James de la Bible, celle que nous utilisons tous, elle n'est pas parfaite. Elle a été élaborée par des hommes qui pensaient connaître le plan de Dieu et ont décidé de l'ajouter, mais si vous faites vos recherches, beaucoup d'entre vous ont probablement parcouru assez, peut-être saviez-vous avant, mais si vous faites vos recherches, cette partie que j'ai sautée ou que j'ai mentionnée ne faisait pas partie du manuscrit d'origine. Dieu un esprit. En fait, il est un esprit. Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il a un esprit. L'homme aussi a un esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit dans l'homme. Consultez le chapitre 12 de l'Ecclésiaste. L'homme a aussi un esprit. Vous avez tous un esprit. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Alors la poussière retournera à la terre comme elle était. Il parle de la mort, quand nous mourrons tous. Alors la poussière retournera à la terre comme elle était, et l'Esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Beaucoup confondent cela et disent, tous les hommes vont au ciel. Ce n'est pas ce qui est écrit. L'homme a un esprit qui retourne au Père, au Dieu qui l'a donné. Dieu a donné à chaque homme et à chaque femme un esprit dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi l'avortement est un meurtre. Dieu a donné à chaque homme et à chaque femme un esprit dans le ventre de sa mère. Monsieur Armstrong a comparé cela à un disque qui enregistre toutes nos expériences, toutes les choses que nous avons vécues dans notre vie. Lorsque nous mourrons, cet enregistrement retourne à Dieu. Lorsque nous recevons un nouveau corps, cet enregistrement revient et se joint à ce nouveau corps. C'est une excellente analogie. Notre esprit, mes frères, est ce que nous sommes. Le Saint-Esprit est ce que Dieu est. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Premier chapitre des Corinthiens. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Nous avons un esprit, Dieu un esprit. Nous avons un esprit, Dieu un esprit. Premier chapitre des Corinthiens. Pour moi, certains des versets les plus fascinants sont ceux que nous allons lire. Personnellement, c'est fascinant pour moi, peut-être pour vous aussi. Cette description de l'Esprit de Dieu et de ce dont il est capable. Premier chapitre des Corinthiens. Nous allons lire plusieurs versets ici. 1 Corinthiens, chapitre 2. En fait, prenons le dernier verset que nous allons lire. C'est le verset 16. J'ai dit que le Saint-Esprit était la pensée de Dieu. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous, nous avons la pensée du Christ. Commençons au verset 10. Verset 10, 1 Corinthiens 2, 10. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Il parle des choses que nous allons éventuellement expérimenter. Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. J'imagine l'esprit de Dieu, cherchant, éclairant, communiquant les choses profondes de Dieu. Je veux dire, c'est Dieu. Mais imaginez les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses d'un homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ce qu'il y a de plus intime en nous, mes frères, c'est notre esprit. Il nous connaît mieux que quiconque, que tout autre être humain. De même, les choses de Dieu ne sont connues que de l'esprit de Dieu. Les hommes ne connaissent donc pas les choses de Dieu. Sauf qu'elles sont révélées par l'Esprit de Dieu. Les choses profondes de Dieu. Nous n'avons absolument aucune chance de connaître les choses de Dieu si l'Esprit de Dieu, son Esprit, ne les révèle pas à notre esprit. À notre intelligence, à notre esprit. Or nous avons reçu, verset 12. Non pas l'Esprit du monde, le monde est un esprit, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous sont données librement par Dieu. Frères et sœurs, l'abondance de connaissances que nous avons. Savons-nous tout? Non, nous ne le savons pas. Mais nous savons beaucoup de choses. Nous connaissons le sens de la vie. Nous comprenons pourquoi ce monde est brisé. Nous comprenons que Dieu est en train de faire quelque chose et d'élaborer un plan extraordinaire. Nous savons que la famille est importante. Un père, une mère et des enfants, mariés, ensemble en tant que famille. Nous savons qu'il y a des décisions et des choses qui sont mauvaises et méchantes. La pornographie, c'est mal. Les aliments impurs, les choses qui ne sont pas saines pour nous. L'abondance de connaissances, les anniversaires, Noël, nous savons que nous jetons des choses à la poubelle parce que nous en savons tellement. Les choses profondes de Dieu, nous les connaissons grâce à son esprit. Ces choses, nous les disons aussi, non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse des hommes, de sorte que nous n'apprenons pas ces choses par des hommes qui les enseignent. Vous savez, les théologiens de ce monde font de leur mieux et ils se trompent considérablement. Mais le Saint-Esprit enseigne en comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Frères et sœurs, c'est comme sur un autre plan, un autre niveau. Ce dont nous parlons est d'un tout autre niveau. Les gens pourraient entrer dans cette pièce en ce moment même et de quoi parle-t-il? Mais nous comprenons. Nous comprenons. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Il nous montre. Il explique ici. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu jusqu'au voile. Quand nos yeux sont couverts, quand nous ne pouvons pas voir, nous sommes dans un état naturel. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Combien de fois les gens, c'est peut-être même une citation de ce qu'ils ont dit, mais combien de fois les gens nous ont-ils regardé et dit « C'est insensé ce que vous faites. » C'est tout simplement insensé. Vous donnez 10% de vos revenus à une église. C'est insensé. L'inflation. Vous vous moquez de moi. C'est de la folie. Vous passez 8 jours et vous en passez la moitié dans un service. C'est insensé. Vous ne faites pas ce que vous voulez le samedi. Du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi, vous arrêtez de prendre vos propres décisions et de faire les choses à votre manière et vous commencez à faire les choses à la manière de Dieu, c'est insensé. Mais c'est l'homme naturel qui parle. C'est l'homme dont les yeux sont couverts. Le voile, il ne peut pas voir. Il est aveugle. Elle est aveugle. Ils ne peuvent pas le voir. Nous ne pouvons pas non plus les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Frères et sœurs, les choses dont nous parlons, les choses que nous avons vécues ces 8 derniers jours, vécues tout au long de l'année, ces choses sont spirituellement discernées. C'est par l'Esprit de Dieu que nous comprenons ces choses. C'est ainsi qu'elles ont un sens pour chacun d'entre nous. Elles sont discernées spirituellement. Celui qui est spirituel juge de tout, mais il n'est jugé par personne. En fin de compte, mes frères, nous sommes responsables devant Dieu, et non devant un homme. Ne vous faites pas d'illusions. Vous n'avez pas de compte à rendre à un homme. Vous devez rendre compte à Dieu. Dieu agit par l'intermédiaire d'hommes, mais c'est à Dieu que vous devez rendre des comptes. Je suis responsable devant Dieu. Car qui a connu, là où nous avons commencé, qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise, mais nous, nous avons la pensée du Christ. L'Esprit de Dieu, mes frères, travaille avec notre esprit. Ils travaillent ensemble. C'est un partenariat. Dieu nous forme et nous façonne par l'intermédiaire de son esprit qui travaille avec le nôtre. Et les deux travaillent en collaboration. Si nous nous soumettons correctement, cela permettra à l'Esprit de Dieu de nous conduire et de nous guider. C'est ce que le monde entier expérimentera une fois que Dieu aura répandu son esprit sur toute chair. Un monde dans lequel l'Esprit de Dieu travaillera avec les esprits du monde entier. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase, et c'est là qu'elle devient passionnante. Vous avez probablement tous entendu cette phrase, « Nous ne sommes pas des crayons jaunes dans une boîte. » N'est-ce pas? Vous l'avez entendu. L'intérêt de cette analogie, c'est que même en tant que chrétien, en pensant au monde entier, nous ne sommes pas tous exactement les mêmes. Nous ne sommes pas comme, vous savez, vous prenez la boîte de crayons, vous les ouvrez et ils sont tous jaunes et ils ont tous le dessus plat et ils ont tous la gomme parfaitement propre et ce sont juste des crayons jaunes dans une boîte. Vous ne savez pas lequel est lequel, ils se ressemblent tous. Nous ne sommes pas des crayons jaunes dans une boîte. Chacun d'entre nous, vous tous, moi-même, nous sommes tous uniques. Nous avons tous des talents et des capacités, des intérêts, des personnalités différentes. Nous sommes tous différents. C'est passionnant, et nous le voyons aujourd'hui dans une toute petite partie de l'Église de Dieu. L'Esprit de Dieu qui travaille avec chacun d'entre nous permet à chacun d'entre nous d'apporter quelque chose de différent à l'Église. Chacun d'entre nous apporte quelque chose de spécial. Nous ne sommes pas tous pareils. L'Église du Christ est décrite comme un corps. Ce corps a différentes parties. Ces parties fonctionnent toutes d'une manière différente, mais elles fonctionnent collectivement pour faire avancer Dieu et le plan de Dieu. Nous sommes tous différents. Lorsque Dieu répandra son esprit sur toute chair, imaginez ce que ce sera. Les artistes de ce monde auront l'esprit de Dieu. L'incroyable talent des gens qui est actuellement utilisé pour le Dieu de ce monde sera utilisé par le Dieu de l'univers. Imaginez les scientifiques, les brillants scientifiques du monde d'aujourd'hui ayant l'esprit de Dieu et ce qu'ils peuvent apporter. Les cuisinières extraordinaires et les personnes capables de préparer des repas ont tous l'esprit de Dieu. Ils pourraient mettre à profit leur talent culinaire et éliminer le porc. Il y a tant de plats délicieux que l'on peut manger sans porc, contrairement à ce que l'on croit généralement. Pas de coquilles Saint-Jacques, pas de crevettes, laissez ces produits nettoyer le fond de l'océan, là où ils doivent être. Mais imaginez les agriculteurs extraordinaires, les gens qui savent comment manipuler le sol et la terre, comment travailler avec elles et comment être patient avec elles. Actuellement, dans le monde, imaginez qu'ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. L'être qui a créé l'agriculteur est l'être qui se dit agriculteur, travaillant dans l'esprit des gens. Pensez aux enseignants qui ont la compétence et l'amour de l'enseignement, et qui veulent montrer aux étudiants, aux petits-enfants et même aux adultes, et leur enseigner beaucoup de choses. Imaginez ces esprits, ces personnes passionnées, guidées par l'Esprit de Dieu. C'est formidable. Ouah! Les parents du monde entier ont l'Esprit de Dieu. Nous avons entendu parler tout à l'heure du tap-tap qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est dans son livre. Tap-tap, c'est dans le livre. C'est un acte d'amour. C'est un acte de compassion. Mais les parents du monde entier, au lieu d'être confus et de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, en pensant qu'ils les aiment, non, ils auront l'Esprit de Dieu et comprendront, non, il faut discipliner un enfant si on l'aime. On ne peut pas les laisser se débrouiller tout seuls. Tout le monde sera guidé et obéira à l'Esprit de Dieu. Le monde, mes frères, sera complètement différent. Passez à Jean 15. Jean, chapitre 15. Je suis sûr que Dieu est impatient de faire cela. Il est extrêmement patient. Je suis sûr qu'il ne peut pas attendre de voir un monde que je viens de décrire, et je n'en ai décrit qu'une partie. Dieu aime tout le monde. Il est un père. Tous les êtres humains sont ses enfants. Certains ont simplement un voile sur les yeux. Ils ne peuvent pas encore le voir. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Mais quand le Consolateur sera venu, le message sur le Saint-Esprit doit contenir quelque chose sur le Consolateur. Mais quand le Consolateur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui sortira du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit, mes frères, est un consolateur. Verset 27, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Le Saint-Esprit vient du Père, ce qui n'est pas surprenant car c'est sa pensée. C'est sa volonté de donner. Le Saint-Esprit vient du Père, et il est lié à la vérité, Jean 16. Jean 16, un chapitre plus loin. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous convient que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, voyez, encore une fois, ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Verset 13. Mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même ni d'elle-même, Mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera les choses à venir. On nous a enseigné dans le ministère, lorsque nous prêchions et expliquions ceci, afin que le monde ne soit pas confus et ne pense pas que nous sommes des trinitaires, de faire référence à l'Esprit de Dieu comme il au lieu de lui, comme c'est écrit ici, c'est pourquoi je le change en il. Vous l'avez probablement entendu pendant le service de Pâques, lu de cette façon. Mais le Père, en 14, qu'il est le Père, me glorifiera, car il, toujours en se référant au Père, recevra de moi et vous le fera connaître. Frères et sœurs, ce consolateur est lié à la vérité. La vérité est réconfortante. La vérité est réconfortante. Pensez à une couette sur un lit. Je ne veux pas réduire la vérité à une couette sur un lit, mais j'insiste sur ce point. Pensez à une couette sur un lit. Elle est douillette. Vous vous allongez dessous. Vous vous sentez au chaud. Vous ne frissonnez pas et n'avez pas froid. C'est très réconfortant. Vous vous reposez sous un édredon. C'est une excellente analogie. Vous vous reposez sous un édredon. Vous pouvez vous endormir. Vous vous sentez détendu. La vérité est ainsi, la vérité nous tient chaud, nous pouvons nous reposer sous la vérité. Nous pouvons nous envelopper dans la vérité. Nous ne sommes pas dans le monde froid de la tromperie, sans pouvoir nous retourner, sans savoir où aller. Le Saint-Esprit, mes frères, est un consolateur. Il apporte le réconfort. Personnellement, j'étais si mal à l'aise avec la religion et les choses de ce monde avant que Dieu n'enlève le voile de mes yeux. Peut-être pouvez-vous tous en dire autant. J'étais très mal à l'aise. J'y allais le dimanche, je me présentais. J'essayais d'avoir une bonne attitude. Mais je n'étais jamais vraiment à l'aise, surtout au fil du temps. Il disait des choses une semaine, puis une autre semaine il disait quelque chose de différent, et je me disais, attendez une minute, la dernière fois vous avez dit cela, mais qu'en est-il de cela? Je n'étais pas à l'aise. Les choses de la Bible n'avaient tout simplement pas de sens pour moi. Même indépendamment des églises. Je lisais la Bible et je n'étais pas à l'aise. Je ne saisis pas, je ne comprends pas. Je ne suis pas à l'aise avec cela. Cela me met mal à l'aise. D'accord, tout le monde fête Noël, mais je ne le vois pas dans la Bible. Cela me met mal à l'aise. Le quatrième commandement, observez le sabbat, le septième jour. Le samedi, je faisais ce que je voulais. Cela me mettait mal à l'aise. J'étais aussi mal à l'aise, et je partage ces choses, alors évidemment, je suis humain. J'ai un passé similaire au vôtre, même s'il est différent. Nous partageons beaucoup de choses. J'étais mal à l'aise dans de nombreux aspects de ma vie. Je n'étais pas pleinement à l'aise en tant que mari. Tout allait bien dans le mariage. Tout allait bien en apparence, mais je n'étais pas vraiment à l'aise. Je me demandais si je faisais bien les choses. Je n'étais pas tout à fait à l'aise en tant que père. Est-ce que j'enseigne à mes enfants les choses qui vont marcher? Ou est-ce que je me contente de regarder le monde et de le découvrir? Je n'étais pas à l'aise avec certains comportements et la manière dont je faisais les choses au travail. Il m'arrivait parfois de participer à une activité qui consistait peut-être à profiter de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas vraiment à l'aise avec cela, mais je devais gagner de l'argent. Je devais gagner de l'argent. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas volé de banque ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je n'étais pas vraiment à l'aise avec tout cela. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je ne voulais pas. Donc, pour une bonne part, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'ai reçu le doudou. Maintenant, je sais ce que c'est que d'être à l'aise et je peux mieux voir à quel point j'étais mal à l'aise, si cela a un sens. Parfois, vous ne savez pas à quel point il faisait froid avant de sortir du froid. Vous pouvez suivre cette évolution. Mais imaginez le monde entier avec le consolateur de la vérité. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Le monde entier sous le consolateur de la vérité. Ésaïe 11, verset 9. Ésaïe 11, verset 9. L'image du royaume. Ils ne feront ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera pleine. Car la terre sera remplie, rappelez-vous le conteneur de tout à l'heure. Pleine de la connaissance du Seigneur, c'est la vérité, mes frères, pleine de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer. Le monde sera recouvert d'eau. Dans ce cas, le Saint-Esprit qui est déversé sur toute chair. Les mensonges seront noyés. Rappelez-vous le déluge et l'eau qui couvre la terre entière. Il y avait juste un petit arc qui se baladait. Noël, Halloween, Pâques, tout a été emporté. Tous ces gens des anciennes églises que j'ai fréquentées, leur esprit sera changé. Ils verront les choses différemment. Ils comprendront pourquoi ma femme et moi sommes partis. Ils comprendront. Leurs yeux s'ouvriront. Les écailles tomberont de leurs yeux. Ce voile sera levé. C'est passionnant. C'est passionnant. Et ce qui est encore plus passionnant, mes frères, c'est la puissance à laquelle les gens auront accès. Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. La puissance à laquelle les gens auront accès. Le confort est excitant, mais le pouvoir l'est tout autant. Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 8. Un seul verset ici. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Frères et sœurs, la puissance est d'une amie. Vous l'avez entendu. Il s'agit d'une puissance réelle. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une allégorie. C'est un pouvoir réel. Le pouvoir sur quoi? Sauter de grands immeubles d'un seul bond. Plus puissant qu'un train, plus rapide qu'une balle, peut-être. C'est pour plus tard. C'est plus tard. Mais le pouvoir sur quoi? Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Frères et sœurs, si vous avez déjà été tentés, nous l'avons tous été. Si vous avez déjà été tentés, ce mot, endurer, vous saute aux yeux. Heureux l'homme et la femme qui résistent à la tentation, car lorsqu'ils seront éprouvés, ils recevront la couronne de vie. Si nous endurons cette tentation, si nous nous en sortons, nous recevons la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne ne dise, quand il est tenté, « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne, nous avons entendu cela. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais tout homme est tenté lorsque, entraîné par sa propre convoitise, il se laisse séduire. Et quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, quand il est consommé, enfante la mort. Le pouvoir que nous avons par l'Esprit de Dieu est le pouvoir de supporter la tentation. Et si nous tombons, nous envoyons le pouvoir de nous relever et de demander à Dieu de nous pardonner et de nous donner une autre chance. Pas une fois, pas deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe le temps que cela prendra, mais le pouvoir de continuer à persévérer, à faire de notre mieux pour ne pas pécher. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Il faut de la force pour le surmonter. Consultez le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 12. Il faut de la force, mes frères, pour vaincre. Romains, chapitre 12, verset 21. Romains, chapitre 12, verset 21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Vaincre le mal par le bien. On dirait l'intrigue d'un film. Vaincre le mal par le bien. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Qui devons-nous vaincre? Il est dit ici de vaincre le mal. Soyons plus précis. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 13. 1 Jean, chapitre 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Descendez au verset 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le méchant. Frères et sœurs, il faut de la force pour vaincre Satan. Satan est un être puissant. L'un des êtres les plus puissants qui existent. Il faut de la force pour vaincre Satan. Il faut de la force pour vaincre le mal par le bien et non l'inverse. Il faut du pouvoir pour y parvenir. C'est la puissance qui vient de l'Esprit de Dieu et la puissance dont le monde va faire l'expérience. Le monde entier gardera la loi de Dieu. Le monde entier, gardant les 10 commandements, adorant Dieu, le mettant en premier et détruisant toutes les idoles, les voyant pour la camelote qu'elles sont, n'osant pas prendre le nom de Dieu en main. Se réunir le jour du sabbat, arrêter ce qu'ils veulent faire et faire les choses de Dieu. Les enfants et les adultes honorent leurs parents. Les parents sont honorables. Cela va dans les deux sens. Des villes exemptes de meurtre et de haine, dont Christ a dit qu'elles étaient une forme de meurtre. Des maris et des femmes qui ne se trompent pas l'un l'autre. Il n'est pas nécessaire de verrouiller les maisons et les voitures de peur que quelqu'un ne s'y introduise pour prendre ce qui vous appartient et se l'approprier. Les gens disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent, ce qui signifie qu'il n'y a plus de mensonges. Et ne pas convoiter ce qui ne leur appartient pas. Frères et sœurs, le monde entier, ayant l'Esprit de Dieu répandu sur eux, les couvrant, jaillissant. Des fleuves d'eau vive coulent de chaque être humain sur la face de la planète. C'est extraordinaire. C'est une image étonnante. Tout va changer. Romains 8, en guise de conclusion. Romains 8. Romains, chapitre 8. Reprenez le haut verset 12. Romains, chapitre 8, verset 12. Imaginez cela pour le monde entier. Romains 8, 12. C'est pourquoi, frères, et bientôt les frères, tous ceux qui sont dans le monde deviendront des frères, nos frères. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair de vivre selon la chair. Car si nous vivons selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, nous mortifions les actions du corps, nous vivrons. Définition du chrétien à venir. Nous y voilà. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Dieu veut beaucoup, beaucoup de milliards et finalement, des trillions de fils et de filles. C'est un père. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il aura. Il répandra son esprit sur toute chair. Sa famille va exploser en taille. Le monde entier aura la chance de ressembler à Dieu et d'être Dieu. De passer par le même voyage que nous avons tous traversé au cours de ces dernières années. Le monde entier aura la possibilité de vivre exactement les mêmes choses que nous vivons tous. Une fois que Dieu aura répandu son esprit, toute chair, ce jour-là, connaîtra l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la gentillesse et la tempérance. Tous les fruits de Dieu se manifesteront dans chaque être humain sur la face de la planète. Frères et sœurs, quelle belle chose que de penser au dernier grand jour. Quel grand jour? Ce sera le monde, un monde rempli de la connaissance de Dieu comme les eaux couvrent la mer. Une fois que Dieu aura répandu son esprit sur toute la chair, toute la chair, toute la chair, pas seulement quelques élus ici, un ici, un ici, un ici, un ici, mais toute la chair. Une fois que Dieu aura répandu son esprit sur tout le monde, sur chaque être humain, ce sera le début d'un monde entièrement nouveau. Bon vent pour le dernier grand jour.